Commentaire sur Romains, partie 2. Document d'étude numéro F045-2. Commentaire sur les chapitres 6 à 10. Objet des chapitres. En continuant à partir de la partie 1, en utilisant également certains points développés dans l'amour et la structure de la loi, numéro 200, nous voyons que Paul développe au chapitre 6 le concept de « nous » étant morts au péché, et par conséquent du fait que nous ne pouvons pas y vivre. Chapitre 6. Alors, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? En aucun cas. Nous sommes morts au péché. Comment pouvons-nous vivre dans le péché? Et le péché est une transgression de la loi. Voir Romains 6, versets 1 à 4. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité de la mort par la gloire du Père, nous aussi nous puissions marcher dans une vie nouvelle. C'est ce que dit Paul au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La structure est claire. Nous procédons à la résurrection sous Christ. Paul dit, « Nous savons que notre ancien moi a été tué sur le poteau, entre parenthèses et non crucifié, en grec, synestorote, avec Christ, afin que le corps pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre de tout péché, et nous qui sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. » Versets 6 à 8. Nous savons que Christ qui est ressuscité des morts ne mourra plus jamais, car la mort n'a plus de pouvoir sur lui. De la mort dont il en est mort, il meurt une fois pour toutes, mais la vie qu'il vit, il la vit pour Dieu. Voir les versets 9 à 10. Nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Par conséquent, le vieil homme qui était mort à Dieu et à la vie éternelle a été rendu vivant à l'amour de Dieu. Christ est ressuscité en tant que Fils de Dieu avec puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts. Comparé Romains 1, verset 4, dans la partie 1. Christ est ressuscité, comme nous le voyons, d'entre les morts, par la gloire du Père, et non par une force qui lui serait propre. De même, nous sommes amenés à marcher dans la nouveauté de vie par la gloire du Père qui habite maintenant en nous à travers la puissance de l'Esprit-Saint. Nous sommes morts au péché en Christ, de sorte que le corps n'est plus asservi au péché, car le corps pécheur est détruit. Christ est mort au péché une fois pour toutes. La vie qu'il vit, il la vit pour Dieu. De même, les élus vivent pour Dieu en étant morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, versets 5 à 11. L'amour de Dieu est maintenant en nous par sa grâce, et nous sommes ainsi capables d'être obéissants jusqu'à la mort, car nous ne sommes plus sous l'emprise, l'esclavage du péché. Le péché ne domine pas les élus, car ils ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce, et sont esclaves de Dieu. Romains 6, versets 12 à 14. Alors, pécherions-nous donc? Non, le péché est une transgression de la loi. Ainsi, nous sommes obéissants à Dieu en tant qu'esclaves de Dieu. Si nous péchons, nous sommes esclaves de la chair et du péché. Et nous sommes donc soumis à la mort. Nous sommes esclaves de l'obéissance qui conduit à la justice, en devenant obéissants du fond du cœur à la norme d'enseignement à laquelle nous étions engagés. Romains 6, versets 15 à 19. La droiture est la justice, et la justice est l'obéissance aux lois de Dieu à travers la puissance de l'Esprit-Saint. Nous ne pouvons pas nous tourner vers les choses dont nous avons eu honte, car leur fin est la mort. Romains 6, versets 20 à 21. Nous avons été libérés du péché, et nous avons reçu le don de la vie éternelle. Ce don découle de la connaissance de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Romains 6, versets 22 à 23. Chapitre 7. Comparez aussi l'amour et la structure de la loi, numéro 200. Nous sommes maintenant morts à la loi, de sorte que nous ne servons pas sous l'ancien code écrit, mais sous l'esprit de la loi. Voir Romains 7, versets 4 à 6. Par la loi, nous comprenons le péché. La convoitise elle-même ne vient pas d'une compréhension de la loi. La connaissance de la signification de la convoitise vient de la compréhension de la loi. Le pouvoir de ne pas être cupide ne vient pas de la loi, mais de la grâce de Dieu qui a donné l'Esprit Saint pour que l'amour de Dieu demeure en nous. Comment pouvons-nous aimer notre prochain si nous convoitons ce qui est sien? Si nous convoitons ce qui est à notre voisin, nous l'envions et nous le tuons et le volons. Si nous plaçons une autre chose au-dessus des lois de Dieu, alors nous enfreignons le premier commandement, et donc toute la loi est violée. Sans l'Esprit Saint, le péché qui provient de l'iniquité de l'esprit trouve une opportunité et tue l'individu. Car sans l'amour de Dieu dans l'Esprit Saint, le péché surmonte la capacité de l'individu à obéir à la loi. La loi n'est donc pas le problème. C'est la faiblesse de l'individu qui ne peut surmonter le péché sans la puissance de l'Esprit Saint donnée par l'amour de Dieu à travers l'obéissance de son Fils. La loi est sainte et les commandements sont saints, justes et bons parce que Dieu est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Paul, entre parenthèses, et ceux des élus, n'a pas pu surmonter, ne pouvait vaincre entièrement le péché. La convoitise de la chair se bat avec les désirs du cœur et l'amour de Dieu dans l'Esprit Saint. Romains 7, verset 13 à 25. La relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082, montre que l'argument des protestants, selon lequel la grâce élimine la loi, est basé sur l'affirmation selon laquelle les élus sont morts à la loi, d'après le texte de Romains 7, verset 4. L'antinomisme associe cette distorsion à un mauvais usage de la doctrine de la prédestination. Romains 7, verset 4, comparé Romains 8, verset 28 à 30, cité ci-après dans ce document. Romains 7, verset 5 à 7, commentaire. Cette structure n'élimine pas la loi, mais souligne plutôt la puissance de l'Esprit Saint dans la régulation de l'individu par la nature de Dieu qui procède de lui à travers l'Esprit Saint. La distinction est faite entre vivre dans la chair et le fait de tenter de réguler la relation de l'individu avec Dieu par des règlements faits pour interpréter la loi qui est en elle-même sainte, juste et bonne. La loi n'est pas une chose physique. Ceux qui vivent dans la chair, entre parenthèses, qui sont charnels, la traitent comme une chose physique. Nous sommes morts à cet aspect parce que nous ne vivons plus dans la chair. Le Messie réintroduira la loi dans son intégralité pour le millénaire selon l'Écriture. Et l'Écriture ne peut être anéantie. Comment donc la loi est-elle abolie en tant que réalité? La loi ne donne pas la vie, l'Esprit Saint le fait à travers Christ. Sans l'Esprit Saint, les convoitises de la chair sont suscitées, éveillées, par la connaissance du bien et du mal, qui est inscrite dans la loi. Sans la nature de Dieu, nous ne pouvons pas observer la loi dans une sainte justice. Ainsi, nous sommes libérés de la loi en Jésus-Christ. Cela ne nous libère pas de la licence. Si nous aimons Dieu, nous gardons ses commandements. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Version Louis II. Car la loi est sainte, et les commandements sont saints, justes et bons. Romains 7, verset 12. Christ a dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels ? Lui dit-il. Version du second. Nous ne pouvons donc pas hériter de la vie éternelle si nous ne gardons pas et n'observons pas les commandements. Ici, Dieu est considéré comme le centre de la bonté, good en anglais, ultime. D'où le mot Dieu, God en anglais. La loi est entièrement suspendue aux deux grands commandements. Matthieu 22, verset 40. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Version Louis II. La loi est donc destinée à une fin ou un but qui est en Christ et qui vise à nous réconcilier avec Dieu. La loi étant spirituelle procède de Dieu et est donc observée dans notre nature afin de nous réconcilier avec Dieu. La loi ne cause donc pas la mort, mais c'est plutôt le péché qui est une transgression de la loi agissant à l'intérieur de l'individu qui cause la mort. Romains 7, verset 13. La loi est spirituelle, mais l'humanité est charnelle, vendue sous le péché. Romains 7, verset 14. Paul dit qu'il ne comprend pas ses propres actes. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais ce qu'il déteste. Donc, s'il fait ce qu'il ne veut pas, alors il est d'accord et reconnaît que la loi est bonne. Et ce n'est pas lui qui le fait, mais le péché qui habite en lui. Entre parenthèses, versets 15 à 17. Paul dit qu'il sait qu'il n'y a rien de bon qui habite en lui. Entre parenthèses, c'est-à-dire dans sa chair. Il peut vouloir ce qui est juste, mais il ne peut pas le faire, car il dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Et ainsi, ce n'est plus lui, mais le péché qui habite en lui. Voir les versets 15 à 20. En effet, il dit que le monde et les démons, sous le dieu de ce monde qui le dirige, voir 2 Corinthiens 4, verset 4, affectent ses influences et font pécher les élus contrairement à leur volonté et à leur désir. Les élus sont influencés par l'esprit, voir le document numéro 117, qui les éloigne du péché, mais les influences terrestres les conduisent au péché qui est une transgression de la loi. C'est pour cette raison que le deuxième sacrement du dîner du Seigneur, le 14 Abib à la Pâque, est établi par le Messie. Tout l'argument selon lequel la loi n'est pas spirituelle et donc pas de la nouvelle alliance, telle que détaillée dans le Nouveau Testament, est totalement faux. La personne véritablement convertie se réjouit et se délecte de la loi de Dieu en son fort intérieur. Nous lisons dans Psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Version du second. Romains 7, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Version du second. Car la loi conduit les hommes à Christ, qui est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. La fin de la loi, entre parenthèses, telos gar nomu, est ici la conclusion en tant que but ou objectif, étant le point ou l'acte ou l'état visé. Ce n'est pas la cessation de la loi. Paul dit qu'il voit une autre loi en guerre avec celle de son esprit, et le rendant captif à la loi du péché, entre parenthèses, qui est une transgression de la loi de Dieu, qui habite en ses membres. Il dit alors que je suis un misérable, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit donc qu'il sert la loi de Dieu avec son esprit, mais qu'avec son corps, il sert la loi du péché qui est une transgression de la loi de Dieu. Aucune personne saine d'esprit ne pourrait dire, à partir de ce texte, que Paul a aboli la loi de Dieu, et telle qu'elle a été donnée par Christ au Sinaï. Voir Actes 7, versets 33 à 55, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, et par les patriarches et les prophètes. Être conduit par l'Esprit libère l'individu de la loi. Nous lisons dans Galates 5, verset 18, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Version Louis II. Ici, sur les 7 premiers chapitres de Romains, Paul détaille le fondement du péché dans l'idolâtrie et le rejet ou la violation de la loi, et que ce n'est que par l'Esprit Saint donné sur l'acceptation de Christ devant le trône de Dieu en tant que l'offrande de la gerbagité, voir le document numéro 106b. C'est au chapitre 8 que nous voyons que c'est Dieu qui détermine qui doit être appelé, et quand et comment cette personne est développée, car elle est donnée à Christ dans ce processus. Et cela a été déterminé depuis la fondation de la terre, à travers l'omniscience de Dieu et sa divine préscience. Chapitre 8. Comme l'explique en détail le texte les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu, numéro 164d, la foi a été sabotée par les gnostiques antinomiens dès le début de l'Église. Nous voyons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus a libéré les élus du péché et de la mort, car Dieu a fait ce que la loi, affaiblie par la chair, ne pouvait pas faire. Il a envoyé son propre Fils, dans la ressemblance de la chair pécheresse, et pour le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair, voir les versets 2 à 3. La loi s'accomplit donc en nous qui marchons selon l'Esprit. Romains 8, verset 4. L'Esprit dirige l'Esprit selon le dessein de Dieu. Voir Romains 8, versets 5 à 6. L'Esprit qui est attaché à la chair, c'est-à-dire l'Esprit charnel, est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne peut d'ailleurs pas se soumettre à la loi. Romains 8, verset 7. Ainsi, l'esprit charnel ou non converti est identifié par sa résistance à l'observation des lois de Dieu. L'argument selon lequel la grâce a éliminé la loi est essentiellement celui d'un esprit non converti. Tout l'argument de la loi grâce identifie ceux qui sont obéissants à Dieu et ceux qui ne le sont pas. La dispense n'est pas si, mais comment la loi est observée. Que personne ne vous juge en ce qui concerne la nourriture et la boisson, ou pour les fêtes, les nouvelles lunes ou les sabbats. Colossiens 2, verset 16 à 17. Ils sont l'ombre de ce qui est à venir, mais la substance appartient à Christ. Christ a donc donné la loi sous la direction de Dieu et est le médiateur et l'objectif de la loi. Ainsi, rien ne passera de la loi tant que tout ne sera pas accompli, à savoir la restauration de la planète à la loi et de là à Dieu à la fin du millénaire. C'est pourquoi Christ rétablit tous les jours saints, les nouvelles lunes et les sabbats à son retour. Entre parenthèses, Ésaïe 66, versets 23 à 24, Zacharie 14, versets 16 à 19. S'ils exigent que ces choses soient observées pendant le millénaire, alors elles sont obligatoires pour les élus à tout jamais. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit dans le chrétien, donnant la vie à travers l'esprit qui habite l'individu. Romains 8, verset 11. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, et cela par la grâce de Dieu. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Version du second. Nous crions donc « Abba » ou « Père », développant la même filiation que celle qui a été donnée à notre frère Jésus-Christ. Romains 8 verset 15 à 16. La loi elle-même ne fournit pas de justification. Une personne est justifiée par la foi en Jésus-Christ. Nous lisons dans Galates 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Version du second. Comparez le document F0 48. La vie que les élus mènent ou vivent, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Galates 2, verset 20 à 21. Nous lisons dans Galates 2, verset 20 à 21. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Version du second. Entre parenthèses, voir également le document d'étude des textes des œuvres de la loi, ou Miksa Mahaseh HaTorah, MMT, numéro 104, et le commentaire sur Galates, F0 48. Commentaire sur Romains 8, versets 11 à 17. L'Esprit Saint est le mécanisme par lequel les élus sont fils de Dieu. Nous recevons la compte à notre baptême et la rédemption ou sa pleine allocation lors de l'adoption, qui est la rédemption de nos corps. Comparez le document d'étude « Comment Dieu devint une famille » numéro 187. Commentaire sur Romains 8, versets 22 à 23. Nous sommes également destinés à être cohéritiers avec lui en tant que fils de Dieu, dès notre résurrection d'entre les morts. Nous avons été prédestinés à recevoir l'adoption en tant que fils. Éphésiens 1, verset 5, Galates 4, verset 5, dès avant la fondation du monde. Nous sommes destinés à être des fils de Dieu en puissance dès la résurrection. Nous serons unis à l'armée angélique en tant que fils de Dieu, sous le haut sacerdoce de Melchisedec, qui a été confié et placé sous le Messie. Hébreux 5, verset 6, verset 10, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 1 à 21. L'union finale de toute la création se produit à la fin de la deuxième résurrection, au général, pour les morts, lorsque la cité de Dieu est descendue et que tout est placé sous Dieu le Père, afin qu'il soit tout en tous. Voir Éphésiens 4, verset 6, voir le document d'étude de la cité de Dieu, numéro 180. L'armée angélique, c'est-à-dire les anges, sont nos frères. Apocalypse 6, verset 11, chapitre 12, verset 10. Ils sont nos frères, parce qu'ils sont aussi fils de Dieu comme nous le sommes. À partir de la première résurrection, voir Apocalypse 20, versets 1 à 6. Le texte de 1 Corinthiens 6, versets 2 à 4 fait référence au jugement de l'armée déchue, et cela a souvent causé des malentendus. Les anges sont aussi les élus, selon 1 Timothée 5, verset 21. Ce n'est pas par notre propre force que nous vainquons ou surmontons le péché, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela signifie-t-il qu'ils ne sont plus tenus d'obéir à Dieu, tel que Dieu a donné sa loi de liberté au Messie, et par l'intermédiaire de Moïse? Non. Les lois du temple et le sacrifice sont données, étant accomplies une fois pour toutes en Jésus-Christ. Les lois de l'adoration de Dieu ne sont pas ainsi accomplies. Tout le problème vient de l'esprit. S'attacher à la chair, c'est-à-dire être charnel, c'est la mort. Mais s'attacher à l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 6. Comparez aussi le document d'étude « L'amour et la structure de la loi » numéro 200. Nous ne sommes pas dans la chair, nous sommes dans l'esprit. Romains 8, verset 9 à 17. Comment alors devons-nous nous réguler? Est-ce être comme le vieil homme, mort à la gloire de Dieu et à la puissance de la résurrection? Non. Nous sommes enfants de Dieu et héritiers de Dieu, en tant que co-héritiers avec Christ. Il doit donc y avoir un but dans la loi de Dieu qui découle de sa nature même. Les antinomiens voudraient que nous supprimions la loi en soutenant qu'elle a été clouée sur le poteau à partir de Colossiens 2,14. Mais nous savons que ce qui a été cloué sur le poteau était le chirographone, ou la facture de dette qui provenait de nos transgressions. Ce n'était pas la loi de Dieu elle-même, qui était sainte, juste et bonne. Comparez les commentaires sur Colossiens F 051. Comment procédons-nous alors? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Nous voyons que les lois de Dieu reposent sur les deux grands commandements. Comparez les documents d'études, le premier grand commandement, numéro 252, le deuxième grand commandement, numéro 257. Ceux-ci sont subdivisés en 4 et 6. Des 4 et des 6, les ordonnances qui règlent la société selon la volonté de Dieu sont réglées selon l'amour de Dieu. Et ceci est interprété par la puissance de l'Esprit-Saint vivant en nous. Par cette puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu et le Christ vivent tous deux en nous. Et Dieu devient tout en tous. Éphésiens 4, verset 6. La philosophie de la loi biblique assume donc la régulation de la société. Mais il n'y a qu'une seule structure par laquelle la loi de Dieu peut être interprétée et par laquelle elle peut fonctionner. Elle ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6. Il ne peut donc y avoir qu'un seul système pour réguler la société de Dieu. Nous constatons que de cette structure, une autre structure transversale émane de la matrice des commandements de Dieu. Nous voyons que les piliers de la loi sont incarnés dans les commandements, et les ordonnances qui forment la sous-matrice des deux grands commandements et des 10 commandements de Dieu. Nous constatons que le système politico-religieux est enchâssé, découlant du premier grand commandement. À partir des lois de Dieu relatives à son adoration et à son obéissance, nous réglementons le calendrier et notre vie quotidienne à partir des premiers, deuxième, troisième et quatrième commandements. Comparez également le calendrier de Dieu numéro 156. Notre environnement est également régi par notre alimentation consommée sous sa loi et par son autorité sous ses lois. Comparez les lois sur l'alimentation numéro 015. Le droit de la famille découle spécifiquement des 5e, 6e, 7e et 10e commandements, et tel qu'interprété par les autres en relation avec toutes les sous-ordonnances. Les crimes et les peines, entre parenthèses, ou le droit pénal, sont réglementés selon le système que Dieu a établi. Les punitions cruelles et contre-nature sont interdites par les lois de Dieu. La loi relative à l'équité est également régie par la structure foncière et sociale. Le commerce est régi par les règles relatives à la dette et à l'usure et au respect des personnes. Afin de comprendre la sous-structure de la loi et la manière dont la société est régulée, réglementée, il est nécessaire de développer la philosophie de la loi biblique dans son intégralité. Cela ne peut se faire qu'en exposant soigneusement toute la structure de la loi au cours des années de sabbat, commençant avec le premier mois, entre parenthèses Abib Nissan, des années sacrées, entre parenthèses, c'est-à-dire 1938, 2005, 2012, 2019 et 2026, et le jubilé en 2027. La lecture de la loi était la tâche la plus importante entreprise par les prêtres sacrificateurs pendant l'année de sabbat du système du jubilé. Ces lectures avaient lieu tous les 7 ans, au cours des 7e, 14e et 21e, 28e, etc. du cycle jusqu'à la 49e année. Lors du jour d'expiation de la 49e année, le jubilé a été soufflé et a duré jusqu'au jour d'expiation suivant de la 50e année, lorsque toute la restauration du nouveau système a été affectée et a recommencé pour la récolte de la première année du nouveau jubilé. Entre parenthèses, comparez les documents d'étude de la loi de Dieu numéro L1 et la série des lois numéro 252 à 263. Dieu a donné son esprit aux élus afin qu'ils puissent voir comment ils peuvent faire fonctionner le système correctement lorsqu'ils ont un amour véritable et engendré par l'esprit pour lui et pour les autres en tant que de véritables fils de Dieu. Le contrôle de la planète leur est donné dans le système millénaire afin qu'ils puissent montrer à l'armée déchue comment cela aurait dû être fait selon la volonté de Dieu, notre Père. Comparé à Apocalypse 20, verset 4 à 6. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 4 à 6. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Version du second. Les élus régneront avec Christ pendant 1000 ans et dirigeront la planète selon la loi ordre donnée par Christ à Moïse au Sinaï. Dieu n'a pas donné à Moïse un système défectueux lorsqu'il a reçu la loi. Pas un seul point ou trait, en d'autres termes, pas la plus petite partie de la loi ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, verset 18, Luc 16, verset 17. Nous ferons fonctionner la planète conformément aux lois de Dieu pendant toute la période de 1000 ans, en utilisant l'Esprit de Dieu qui sera mis à la disposition de l'humanité sous la supervision de Christ et de l'Église. Tout ne sera accompli que lorsque Dieu règnera depuis la terre dans la cité de Dieu, en nous tous en tant que Dieu. Voir le document d'étude La Cité de Dieu, numéro 180. Comme cela est expliqué dans la relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082, Christ a été tué dès la fondation du monde. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 8, « Tous les habitants de la terre adoreront la bête, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la création, fondation du monde. » Ainsi, le péché était connu dès la fondation du monde, tout comme notre appel. La prédestination des élus est vue dans Romains 8, versets 28 à 30. Voir aussi le texte « Dieu et l'Église » numéro 151. L'Église a été fondée en l'an 30 de notre ère, à Jérusalem, et a été persécutée. Beaucoup sont venus, mais beaucoup aussi n'ont pas été choisis par Dieu. La parabole du semeur a été donnée pour montrer ce fait. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 20, verset 16. La prédestination des élus se trouve dans Romains 8, versets 28 à 30. Les gens sont choisis selon l'omniscience de Dieu. La nécessité du sacrifice du Christ et du choix séquentiel des élus est connue depuis la fondation du monde. Ces personnes étaient connues et prédestinées dès la mise en place, c'est-à-dire l'établissement ou la fondation du monde. Dieu connaît toutes les vraies propositions à partir de son omnipotence et a donc choisi les élus comme fils de Dieu pour remplacer les démons dans le règne du Messie dans le millénium. Ils sont donc appelés quand il est approprié de les appeler, puis ils sont formés et justifiés et de la glorifier. Rien ne peut interférer avec ce processus, voir les versets 31 à 32. Ainsi, personne ne peut porter une accusation contre les élus de Dieu, car c'est Dieu qui justifie, verset 33. Christ intercède pour les élus, et personne ne peut séparer les élus de l'amour de Christ, quelle que soit la persécution qu'ils subissent. Comme il est écrit, « C'est à cause de toi que nous sommes tués tout le jour. Nous sommes considérés comme des moutons à abattre. » Psaume 44, verset 22. Être un véritable chrétien au cours des 2 millénaires a été dangereux, et les morts et les persécutés se comptent par millions. Ainsi, d'après les textes ici, tous ceux qui se disent appelés ne sont pas vraiment appelés ou choisis de Dieu. L'Église est considérée comme obéissant aux lois de Dieu. S'ils ne parlent pas selon la loi et le témoignage, il n'y a aucune lumière en eux. Ésaïe 8, verset 20. Les saints sont ceux qui obéissent au commandement de Dieu et au témoignage ou à la foi de Jésus. L'Église n'a pas le pouvoir de modifier ses lois comme le stipule la Bible. Ceux qui le font sont disqualifiés de la foi et de la première résurrection, voir le document numéro 143a. La foi est exprimée en parabole de sorte que, en règle générale, seuls ceux qui sont capables de venir en jugement pour la première résurrection sont appelés. Les dommages à long terme sont ainsi limités. Cependant, plusieurs entendent et sont appelés bien qu'ils ne soient pas prêts. Christ a parlé de ce problème. Ainsi, la loi a été introduite pour augmenter la transgression, de sorte que la compréhension de la régulation des affaires selon l'amour de Dieu soit évidente pour ceux qui cherchent Dieu. Cependant, Israël et le monde n'étaient pas obéissants. Par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs seront rendus justes, c'est-à-dire par la grâce qui règne par la justice jusqu'à la vie éternelle en Jésus oint. Romains 5, versets 20 à 21. Chapitre 9. Au chapitre 9 et 10, Paul développe la loi de Dieu comme clé de la conservation de la foi et du maintien, entre parenthèses rétention des élus au sein du corps d'Israël. Cet aspect a été constamment attaqué par les antinomiens et les adorateurs de Baal, des cultes du soleil et des mystères. Comparez également les attaques antinomiennes sur la loi de Dieu, numéro 164d. Dans les premiers éléments du chapitre, Paul montre que tous ceux qui se disent israélites ne le sont pas, et que tous ceux qui se disent fils d'Abraham ne le sont pas, bien qu'ils soient ses descendants. Versets 1 à 7. Mais c'est à travers Isaac que vos descendants seront nommés. Genèse 21, verset 12. L'incrédulité d'Israël les a fait échouer, comme nous le voyons à partir de ce texte, voir le verset 3, Exode 32, verset 32, verset 4. Concernant la filiation, Exode 4, verset 22, Jérémie 31, verset 9. Gloire, présence de Dieu, Exode 16, verset 10, 24, verset 16. Entre parenthèses, les alliances avec Israël ont souvent été renouvelées. Comparez Genèse 6, verset 18, 9, verset 9, chapitre 15, verset 8, 17, verset 2, Exode 2, verset 24. L'octroi de la loi, Exode 20, verset 1 à 17, Deutéronome 5, verset 1 à 21, et aussi l'adoration des lois dans le tabernacle et le temple. Entre parenthèses, Esdras 4, verset 23, jusqu'au chapitre 7, verset 27. À partir du chapitre 9, verset 6 à 13, nous voyons que la promesse de Dieu à Israël n'a pas échoué, parce que la promesse n'a pas été faite simplement aux descendants physiques d'Abraham, ni à ceux d'Isaac en tant que tels, mais à ceux que Dieu avait choisis et prédestinés à être appelés dans l'Israël de Dieu, tels que donnés par Eloah à Christ en tant que leurs Elohim, à Deutéronome 32, verset 8 et suivant, entre parenthèses comparé Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, de même verset 7, Genèse 21, verset 12, verset 9, Genèse 18, verset 10, et les versets 10 à 12, Genèse 25, verset 21, verset 23, et le verset 13, Malachie 1, verset 2 à 3. Ces choses ont été faites afin que le dessein de Dieu d'élection et de prédestination, numéro 236, puisse se poursuivre. Sans une connaissance approfondie de l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre Paul à partir des Romains et au-delà, ni Jean et la Révélation, entre parenthèses d'Apocalypse. À partir des versets 14 à 15, Paul nie toute accusation d'injustice envers Dieu, en recourant à son affirmation à Moïse, entre parenthèses par Christ, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. J'aurai miséricorde de qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Exode 33, verset 19. La foi ne dépend donc pas de la volonté ou de l'effort de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai fait monter dans le but de montrer ma puissance en toi, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Voir les versets 16 à 17. Dieu a donc pitié de qui il veut, et il endurcit le cœur de qui il veut. Verset 18. À partir des versets 19 à 21, Paul produit ensuite un dialogue où il dit, « Vous me direz alors, pourquoi fait-il encore des reproches? Car qui peut résister à la volonté de Dieu? Mais qui es-tu pour répondre à Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de faire de l'argile un usage pour l'honneur et un autre pour un usage subalterne, vil ?» Paul pose alors la question, « Et que dire si Dieu, désireux de montrer sa colère et de faire connaître sa puissance, a enduré avec beaucoup de patience les vases de colère faits pour la destruction, afin de faire connaître les richesses de sa gloire pour les vases de la miséricorde, que Dieu a préparés d'avance pour la gloire ? Même nous, que Dieu a appelés non seulement des Juifs, mais aussi des païens, voir les versets 22 à 24. » Paul cite ensuite Osée, chapitre 2, verset 23, chapitre 1, verset 10. Pour ceux qui n'étaient pas mon peuple, je les appellerai mon peuple, et pour celles qui n'étaient pas aimées, je l'appellerai ma bien-aimée. En ce lieu même où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant, voir les versets 25 à 26. Paul dit ensuite, entre parenthèses, citant Ésaïe 10, verset 22, et chapitre 1, verset 9, et Ésaïe crie au sujet d'Israël, si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, seul un reste d'entre eux sera sauvé. Car l'Éternel exécutera sa sentence sur la terre avec rigueur et promptement. Et comme Ésaïe l'a prédit, si l'Éternel des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous aurions été comme Sodome et Gomorre. Voir Genèse 19, versets 24 à 25, et les versets 27 à 29. Paul pose ensuite une question clé qui couvrira le chapitre 9, verset 30, jusqu'au chapitre 10, verset 13. Que dirons-nous alors? Que les païens qui n'ont pas poursuivi la justice l'ont atteinte, c'est-à-dire la justice par la foi, mais qu'Israël, qui a poursuivi la justice fondée sur la loi, n'a pas réussi à accomplir cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas poursuivie par la foi, mais comme si elle était fondée sur les œuvres. Ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. Comme il est écrit, « Voici que je pose en Sion une pierre qui fera trébucher les hommes, un rocher qui les fera tomber, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Ésaïe 28, verset 16, chapitre 8, verset 14 à 15. Chapitre 9, verset 30 traite de la vraie justice par la foi. Chapitre 3, verset 22, chapitre 10, verset 6, verset 20, Galates 2, verset 16, Galates 3, verset 24, Philippiens 3, verset 9, Hébreux 11, verset 7. À partir de Romains 9, verset 32, la loi de Dieu est poursuivie par la foi, et non par les œuvres, comme également dans le commentaire sur Jacques, F 059. Cependant, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2, verset 17. L'obéissance au commandement est une condition préalable nécessaire à la rétention de l'Esprit Saint, qui habite en ceux qui gardent les commandements de Dieu. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Version 8 secondes. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Version 8 secondes. Il est donc impossible d'être chrétien et d'aimer Dieu et Christ sans respecter, observer la loi. Par nécessité, cela implique d'observer le sabbat en tant que quatrième commandement ainsi que le calendrier de Dieu. Voir le document numéro 156. Chapitre 10. Le chapitre 10 poursuit la structure de la loi et de la foi à partir des versets 1 à 13, où la vraie justice est par la foi. Rien de tout cela n'annule la loi de Dieu. Paul dit que son désir et sa prière, c'est qu'Israël soit sauvé. Il estime qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais que ce zèle n'est pas éclairé. Ils sont ignorants de la justice qui vient de Dieu et cherchent à établir la leur. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, afin que quiconque a la foi soit justifié. Voir les versets 1 à 4. Galates 3, versets 23 à 26. Comme nous le voyons dans la relation entre le salut par grâce et la loi, numéro 082, le commentaire de Romains 10, verset 4 nous dit « Car la loi conduit les hommes à Christ, qui est la fin de la loi. » La fin de la loi, entre parenthèses, en grec « telos gar nomou », est ici la conclusion comme le but ou l'objectif, étant le point ou l'acte ou l'état visé. Ce n'est pas la cessation de la loi. Être conduit par l'Esprit libère l'individu de la loi. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Version du second. À partir du verset 5 et suivant, Paul se réfère alors à Moïse, qui a écrit que l'homme qui pratique la justice basée sur la loi vivra par elle. Voir Lévitique 18, verset 5, Galates 3, verset 12. Paul parle ensuite de la justice fondée sur la foi. C'est la foi qui permet aux élus d'observer la loi par la foi. Paul pose des questions qui cherchent à varier la position de Christ en posant le problème de celui qui remonte de la tombe ou monte au ciel. Cette comparaison cherche à faire descendre Christ du ciel ou à le faire remonter d'entre les morts. Paul attire ensuite l'attention sur le fait que l'Esprit est dans nos cœurs et sur nos lèvres, entre parenthèses, dans le baptême. Ainsi, la puissance de Dieu n'est pas perçue en termes physiques, mais elle est parmi nous. Si nous confessons avec nos lèvres que Jésus est Seigneur, et si nous croyons du fond du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Versets 8 à 9. Les élus croient avec leur cœur, et ils sont justifiés. Ils confessent avec leurs lèvres, et sont sauvés. Verset 10. Il est écrit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Verset 11. Citation d'Ésaïe 28, verset 16. Les élus ont été libérés de la loi sacrificielle, comparé aussi le chapitre 3, verset 9 à 20. Il n'y a pas de distinction entre juifs et gentils. Verset 12. Voir aussi Joël 2, verset 32. Le même Seigneur est le Seigneur de tous et accorde ses richesses à tous ceux qui l'invoquent. Car tous ceux qui l'invoquent seront sauvés. Verset 13. Ce sont ces références messianiques qui se rapportent à Christ, qui était Elohim d'Israël. Israël est responsable de son propre échec à partir du verset 14 et suivant, Paul dit « Mais comment les hommes pourraient-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Le message de l'Évangile est donc essentiel pour la foi. Comment les hommes peuvent-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, que les pieds de celui qui prêche la bonne nouvelle sont beaux. Verset 15, Ésaïe 52, verset 7. Au verset 16, Paul se réfère à Ésaïe 53, verset 1. Seigneur, qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ, verset 17. Ainsi, les élus expliquent l'évangile du royaume de Dieu. Au verset 18, Paul cite le psaume 19, verset 4. Leur voix s'est fait entendre partout sur toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Au verset 19, il dit, « Je demande à nouveau, Israël ne l'a-t-il pas su ?» Moïse le premier dit, « Je te rendrai jaloux par ce qui n'est point une nation, par une nation sans intelligence. Je te mettrai en colère. » Deutéronome 32, verset 21. Paul montre qu'Ésaïe a dit à Israël qu'il ne comprendrait pas ou refuserait de comprendre l'Évangile. Ésaïe 55, verset 1 à 2, voir les versets 20 à 21. « J'ai été trouvé par ceux qui ne m'ont pas cherché. Je me suis montré à ceux qui ne m'ont pas demandé. » Mais Dieu dit au sujet d'Israël, par l'intermédiaire du prophète, « Tout le jour, j'ai tendu la main à un peuple désobéissant et contredisant. » Nous allons maintenant lire la version du second, des chapitres 6, 7, 8, 9 et 10. Chapitre 6. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous y étiez. Et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Chapitre 7. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la loi la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fut accompli en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et à l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils ne fussent faits ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Il y a-t-il en Dieu de l'injustice, loin de là? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Si après dans ce document, les notes de Billinger sur Romains pour la version King James de la Bible, des chapitres 6 à 10, disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'étude, commentaire sur Romains, partie 2, F045-2.